Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique Ronan Mahé. La gourmandise de ce matin est une affirmation macabre du peintre norvégien Edvard Munch, que je prononce sans doute mal. Je vois tous les gens derrière leurs masques, des visages calmes et souriants, des cadavres livides se hâtant le long d'un sentier venteux qui aboutit à la mort. Une citation qui officie comme remède déjà par son statut de memento mori, ensuite parce qu'elle prouve que le redoutable peut être transfiguré. Contrairement à ses films, notre apothicaire de l'âme se montre peu. Cinéaste à l'imaginaire émancipé, il est l'auteur d'une œuvre humaniste s'amusant avec tous les genres. À 14 ans, il rencontre le 7e art dans une pension oratorienne dont le ciné-club projette Baiser volé de Truffaut en présence du scénariste du film Bernard Revon. Ce dernier, remarque le timide adolescent, suivent une amitié et le prêt d'une version dédicacée des entretiens d'Hitchcock avec Truffaut. Le jeune rêveur étudie ensuite le cinéma à l'IDEC et les lettres, tout en cultivant un rapport quasi religieux avec l'image mouvante. Lorsqu'il ne la crée pas, ce cinéphile obsessionnel l'analyse par écrit ou l'invente pour d'autres. Son séjour dans ce studio le tient éloigné des écrans noirs, il ne pourra donc qu'être bref. Bonjour Philippe Leguet.
Bonjour.
Première question, c'est quel est votre rapport à la mélancolie ? Et je suis bien curieuse, puisque vous avez fait un film qui s'appelle Du jour au lendemain avec Benoît Poulvorde, où c'est l'histoire d'un homme qui a une vie assez médiocre, et du jour au lendemain, il se prend une énorme claque de bonheur.
Oui, du jour au lendemain, c'est l'histoire d'un homme qui accumule les catastrophes dans la vie quotidienne, est encombrée de mini-détails absurdes, comme sa machine à café qui lui explose à la figure, des contrariétés de tous les ordres, et il doit quitter son bureau, on sent qu'il est menacé dans son emploi, sa femme finalise un divorce, et puis brusquement, l'embellie survient dans sa vie, et au lieu de... Dans un premier temps, ça le réjouit, et à partir d'un certain moment, ça l'angoisse. Et il n'a qu'une idée, c'est de revenir à l'état de chaos...
Et de souffrance.
Et de souffrance, c'est surtout le chaos. Je pense qu'à un moment, en tout cas, il fait bon ménage avec sa mélancolie, et quand le bonheur s'installe, il y a quelque chose de terrifiant, parce qu'on a peur que le bonheur s'arrête. Il arrive de manière imprévisible.
Oui, brutale.
Brutale et presque accidentelle. Et au fond, on se dit, c'est un accident. Ce bonheur ne m'est pas dû.
Oui, mais ça passe quand même d'une réflexion. Le bonheur est un choix, dit Benoît Poulvorde à un moment dans le film. Et puis finalement, il ne supporte pas le bonheur, tout simplement. Il y a des gens qui sont allergiques au bonheur.
Il y a des gens qui sont allergiques au bonheur. C'est vrai, il y a des gens qui chérissent leur inconfort, leur inadaptation. Alors, je m'empresse de dire que c'est pas du tout mon cas. Moi, je crois que la racine de ma mélancolie remonte principalement à l'adolescence. J'étais pensionnaire pendant 4 ans parce que j'étais un élève assez médiocre.
Rêveur.
À Paris, pardon.
Rêveur,
à côté de la plaque. Et j'ai poursuivi d'ailleurs cet état rêveur quand j'étais en pension, ce qui fait qu'en général les rêveurs sont ostracisés ou on les bisute ou on leur fait des trucs. Et puis, au fond, le refuge pour moi à cette inadaptation au monde que je ressentais dans mon adolescence, ça a été la cinéphilie, le cinéma. Et alors qu'on était loin des salles en pension à Pontoise, il y avait les cahiers jaunes. Des cahiers de cinéma, enfin dans les éditions jaunes. Je me souviens, il y avait aussi l'histoire de cinéma de Georges Sadoul et André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma ? Voilà. Et avec ces livres-là, au fond, j'ai projeté ma cinéphilie. Et le week-end, je rentrais à Paris et assez tôt, j'ai découvert la cinémathèque.
Vers 15 ans, Philippe Leguet.
Oui, à 15-16 ans, ouais.
Il paraît que pendant longtemps, vous ne pouviez pas prendre de rendez-vous sans d'abord regarder le programme de la cinémathèque.
C'est vrai, parce que à l'époque, la cinémathèque était dirigée par Henri Langlois. Elle était située dans les palais de Chaillot. Et il y avait une sorte d'angoisse à ce que les films programmés, en particulier les grands films de la période d'Hitchcock en couleur, Vertigo, La Corde, et qui étaient bloqués, qu'on pouvait pas voir en salle, et qui étaient même faisait même l'objet d'aucune rétrospective. J'avais qu'une seule peur, c'était d'avoir pris un rendez-vous à ce moment-là.
Ça vous a d'ailleurs inspiré un film, Philippe Leguet, dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, mais j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Dans quelques instants, vous allez convoquer, entre autres, John Ford, Fragonard, des découvertes artistiques, la correspondance de Flaubert et de Georges Sand, Sioran, Trenet, Bourville, Pétula Clark, et de la course à pied juste après, un nouveau morceau d'Alain Souchon, On se ramène les cheveux.
On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant. Faut que tout soit un peu comme avant. Regardez les photos le soir, mon voyage en Angleterre me met un petit cafard. Le train vient s'allonger d'une manière un peu intime le long du bateau à quai à Calais maritime. Là c'est pas New Haven, on voyait les falaises, on sautait sur le gangway, à nous les petites anglaises. On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant pour que tout soit un peu comme avant. Fille de la maison, Deborah Valentine, sur le piano du salon, jouait du ragtime. Je voyais ses cheveux bouger, balancés par le rag, et ça me faisait un effet vague. On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. Là on mange des fish and chips en disant pussy, y avait la reine d'Angleterre aussi. Sur celle-là c'est le jeune Mick sur le quai de la gare qui regarde les disques de l'autre Lascar. Là je prends l'air malheureux pour voir, je croyais que j'avais les yeux bleus. Le soir, on se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant pour que tout soit un peu comme avant. On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant pour que tout soit un peu comme avant.
Remède à la mélancolie avec Philippe Leguet sur France Inter.
If anybody had told me 6 months ago that today I'd be in a graveyard in Innisfree with a girl like you that I'm just about to kiss, I'd have told them.
Oh, but the kissing's a long way off yet.
Huh?
Well, we've just started the court, and the next month we'd start the walking out together, and the month after that there'll be the thrashing parties, and the month after that there'll
be. Nope.
Well. Maybe we won't have to wait that month.
Yep.
Or for the thrashing parties.
Nope.
Or for the walking out together.
No.
Then so much the worse for you, Sean Thornton. For I feel the same way about it myself.
L'homme tranquille de John Ford, adaptation de la nouvelle éponyme du romancier irlandais Maurice Walsh. Les studios ont longtemps refusé le scénario en disant que c'était une idiotie irlandaise romantique et sans intérêt commercial. C'est devenu le plus gros succès de la carrière du réalisateur. Et là, on entend John Wayne et Maureen O'Hara. Philippe Leguet, je vous laisse remettre cette scène en contexte.
Alors, l'homme tranquille de John Ford, c'est le retour d'un Américain, joué par John Wayne, dont on découvre que c'est un ancien boxeur, et après toute sa vie loin de l'Irlande, il revient dans son pays d'origine, et il est très mal reçu par tout un clan dirigé par le gros Andrew McLaglen, mais qui pour une raison assez compréhensible, puisqu'en fait très vite John Wayne tombe amoureux de sa sœur. Et donc il lui met des bâtons dans les roues. Le film est très tendre, il n'est pas du tout dramatique. C'est une comédie qui est à la fois une petite nostalgie et qui est une rêverie, enfin un rêve d'Irlande, puisque à l'époque l'Irlande était déchirée entre l'IRA et les Anglais, entre les catholiques et les protestants. Enfin donc il y avait déjà des tensions qui ont été complètement évincées. Enfin en tout cas. Édulcoré par Ford, qui s'attache à cet amour des Irlandais, de l'alcool, de la bagarre, et aussi il y a cette histoire d'amour avec Maureen Hara, dont réellement en fait Ford était amoureux, et il a transposé son idylle par film interposé.
Il y a quelque chose en effet de la pastorale dans ce film, avec cet Éden idéalisé qu'est l'Irlande. Mais ce qui est amusant, c'est que John Wayne revient en Irlande et il n'a plus les codes. Il a les codes américains et il se heurte à tous les codes irlandais, notamment quand il fait la cour à la sœur de son ennemi.
Il y a une résistance parce que, évidemment, pour lui, même si le film se passe dans les années 50, il pense qu'il suffit de rencontrer une femme, de tomber amoureux d'elle et de la demander en mariage. On peut dire que déjà, ça paraît obsolète. Mais
ce qu'il fait en deux rendez-vous.
Oui, ce qu'il fait en plusieurs rendez-vous. Tout ça chaperonné par un merveilleux acteur qui s'appelle Barry Fitzgerald.
Oui, merveilleux. Et le potentiel comique du film, le plus drôle.
Oui, parce que le film est drôle, il est tendre. On prend son temps aussi. Il est une rêverie. Et je me souviens en fait que c'est un film que j'ai vu quand j'étais en pension. Je crois même que je l'ai vu pour la première fois en version française. Et j'ai été tellement marqué par cette histoire que en revenant en Irlande, ou en allant en Irlande plus tard avec mes fils et ma compagne, je n'avais qu'une idée, c'était de faire le voyage sur les lieux même du tournage. J'aime beaucoup de toute façon retourner dans les lieux. Et je me souviens que j'ai même failli les tuer toute la famille parce que je roulais sur une route et j'ai vu le fameux pont, il y a une sorte de pont du 16e siècle qui filmait dans L'Homme tranquille. Et là, j'ai donné un coup de frein derrière. Moi, il y avait un poids lourd qui a failli nous écraser tous. Mais heureusement, nous avons survécu. L'esprit de John Ford nous a protégés.
Philippe Le Gay, il y a quelque chose de frappant, on l'a dit en introduction, mais vous avez une cinéphilie obsessionnelle que vous qualifiez parfois même de névrotique. En 86, vous avez fait un documentaire, Les Amoureux du cinéma, une fiction documentaire où on voyait à la fois des grandes figures du cinéma parler de leur passion pour le 7e art et en même temps un héros qui était soumis à un problème que vous avez sans doute eu véritablement, Philippe Le Gay, c'est que le jour de son mariage, il a le choix entre passer la nuit avec son épouse ou aller voir un film qui ne passe jamais à la cinémathèque.
Alors, ça n'est pas arrivé à moi personnellement, mais il y a des cinéphiles à qui c'est arrivé, ça je le sais de façon avérée. Je sais de façon avérée que je crois qu'il y avait un film de Frank Borzage qui passait à la cinémathèque, ce fameux film mythique qui avait été perdu et dont une copie avait été retrouvée par miracle par Henri Langlois et qu'il a préféré, ou peut-être qu'il a pas préféré, peut-être qu'il lui a dit mais on se verra dans 2 heures, voilà, il a essayé de solliciter la compréhension de sa compagne.
Philippe Le Gay, vous dites que la salle de cinéma était un refuge, une manière de fuir le monde et vous-même. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas aimé le monde, ni vous-même, pendant longtemps? Et où en êtes-vous par rapport à cela?
Non, moi je me suis réconcilié avec le monde. C'est peut-être c'est moins le monde qui me paraît très horrible, parce que j'aime la réalité. La difficulté que j'éprouve, c'est le mode d'emploi. C'est-à-dire que je me sens démuni pendant très longtemps dans mes rapports avec les jeunes filles, les jeunes femmes. J'avais pas le mode d'emploi. Je voyais mes camarades se comporter en Don Juan et moi j'étais là encore tremblant, rougissant. Et la réalité me paraissait un labyrinthe, parfois menaçant, parfois difficile. Et parfois le cinéma était à la fois un refuge, mais aussi, et ça c'est une chose dont Truffaut par exemple parlait dans certains films, c'est que le cinéma aussi vous donne le mode d'emploi, c'est-à-dire vous apprend à tartiner des biscottes comme dans Baiser volé, et on peut apprendre des choses, on sort enrichi, pas simplement reclus. Et c'est vrai que cet aller-retour entre la salle et le cinéma est quelque chose qui m'a nourri. De fait, de faire maintenant, je fais des films à mon tour. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais l'endroit où on vous demande sans arrêt de prendre des décisions, de trancher, de choisir. C'est un plateau de cinéma, aussi bien dans les rapports avec les acteurs, dans les décisions, la manière de tourner une scène. Et cette obligation de prendre des décisions est une chose qui m'a obligé à sortir de mon inertie ou de cette espèce d'apathie dans laquelle j'aurais voulu passer le reste de mon existence.
Vous dites aussi, Philippe Leguet, que chacun de vos films vous aide à régler un problème personnel. Là, on va écouter l'extrait d'un de vos films. Et celui-là a compté, et je trouve qu'il s'inscrit parfaitement dans le thème de l'émission, déjà parce que vous avez choisi un remède en rapport, et ensuite parce qu'il y a une ambivalence qui vous caractérise, qu'on retrouve dans ce film.
Monsieur Fragonard, je suis bien aise de vous voir. J'ai là un rapport de l'Académie signé par monsieur le surintendant des bâtiments. L'Académie, monsieur Fragonard, regrette que vous vous livriez à des ouvrages peu conformes à votre génie, que vous abandonniez des compositions nobles au profit de sujets d'un ordre inférieur, et vous n'avez même pas livré votre tableau de réception.
1889, les deux Fragonard, long métrage d'un réalisateur que vous avez longtemps fui, Philippe Leguet, puisqu'il s'agit de vous-même. Le film a d'abord existé sous forme de court métrage. On a choisi d'en passer un extrait puisque vous avez choisi les portraits de fantaisie et le tableau La Fête à Saint-Cloud du jouisseur rococo que vous avez mis en scène, Fragonard, le peintre de la légèreté. Est-ce que vous l'enviez? Ce n'est pas anodin, ce film, Philippe Leguet, puisque dedans, il y a les deux Fragonard. Il y a aussi le cousin du peintre qui est anatomiste et donc qui regarde la mort en face tout le temps, qui est très saturnien, hein, c'est Robin Renucci qui l'incarne. Et puis de l'autre côté, ce Fragonard enlevé, léger, jouisseur, solaire.
Oui, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai mis en scène, je dirais, ma dualité ou quelque chose, ou en tout cas deux forces en moi qui se combattent, puisque en empruntant une figure historique, puisque donc on connaît le peintre Fragonard, Jean-Honoré Fragonard, le peintre qui est aujourd'hui au Louvre, qui a d'ailleurs été le premier directeur du Louvre, et son cousin est beaucoup plus obscur. Il s'appelait Honoré Fragonard, né la même année. Il était vétérinaire à l'école de Maison Alfort et il a disséqué des centaines de cadavres et il a trouvé un système pour les conserver avec de la cire. Et si bien qu'aujourd'hui, à Maison Alfort, on peut découvrir une dizaine d'écorchés, hommes et femmes, dans des postures souvent mises en scène. Quelque chose qui est très inquiétant. Et en découvrant ce Fragonard, j'ai d'abord cru que c'était en fait le même personnage. Je me suis dit, alors voilà, d'un côté, on a le peintre qui peint des jeunes filles dans des boudoirs ou des jeunes baigneuses, et de l'autre, on a l'écorché obsédé par les cadavres. En réalité, non. Et après renseignement, puisque à l'époque, Internet n'existait pas, donc j'ai découvert qu'il y avait ces deux hommes, et le thème du sujet s'est immédiatement imposé à moi. On peut dire que Fragonard, l'anatomiste, est un mélancolique, mais c'est aussi presque une figure de la cinéphilie, parce qu'au fond, il est dans la cave, dans la grotte, il cache ses cadavres, il les dissèque, un peu comme le cinéphile peut disséquer des films comme ça, qui ne sont plus des choses vivantes, qui sont des choses sur celluloïde.
Il nie la mort aussi, il nie la mort réelle, il nie la mort de sa fiancée au début du film.
Voilà, c'est vrai, il nie la mort. Enfin, un peu comme le cinéma aussi garde pour toujours l'image des êtres aimés. Et par opposition, Fragonard est la force de vie. Mais je crois que quand j'ai tourné le film, au fond, j'étais plus, par tempérament, plus proche d'un anatomiste joué par Renucci, et que j'aurais aimé être davantage le Fragonard peintre et jouisseur.
Et alors justement, Philippe Leguet, il y a une citation que j'ai pas pu m'empêcher de noter. Il y a un moment, une scène d'orgie, et donc c'est censé représenter la pulsion vitale à son paroxysme, hein, quand même, le coït. Et Sammy Frey, qui joue dans le film et qui est un dandy vénéneux qui trouve sa volupté dans le macabre, a cette réflexion. L'appétit de vivre est une chose si fatigante, la vie est si prévisible, on la parcourt à la recherche d'un frisson, puis l'on renonce. Et là, Philippe Leguet, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous étiez plus proche de Fragonard, l'anatomiste, ou de Sammy Frey, et de son pessimisme?
J'ai adoré le personnage de Sammy Frey, qui, Et l'acteur lui-même, Sammy Frey, qui était une sorte d'ange noir. Parce qu'en réalité, le 18e est partagé entre deux versants. C'est-à-dire qu'il y a l'élan, la vitalité, les futurs philosophes, Diderot, qui vont penser l'éloge de la liberté, secouer la monarchie, enfin bref, installer un ordre nouveau. Mais il y a aussi toute une part cachée du 18e, et justement que l'autre Fragonard exprime, qui est le côté gothique, le côté satanique, le côté sadien, disons. Et c'est vrai que le personnage de Sammy Frey incarnait un peu cette dimension sadienne. Je lui avais demandé d'ailleurs de porter une sorte de dentier pour qu'il ait des dents pourries. Que je voulais, à l'intérieur de cette silhouette magnifique, il porte la mort en lui. Et Sade est concomitant de Fragonard. C'est ça qui est étonnant.
Mais vous, Philippe Legal, vous éludez la question.
Alors moi, je suis pas du tout sadien. Je suis pas du tout sadien, mais je pense aussi, alors, les orgies, moi, j'ai jamais participé à une orgie. D'ailleurs, c'est un peu à la fois un rêve et une frustration. Mais j'ai jamais eu, au fond, envie de vivre ça jusqu'au bout. Et pour moi, parce que l'orgie est pas du tout, joyeuse.
Mais on le voit d'ailleurs dans ce film.
Je crois qu'elle est morbide. C'est-à-dire que dès l'instant où les femmes sont interchangeables, il y a quelque chose, au fond, qui n'est pas, qui ramène la pulsion sexuelle à quelque chose de fermé. Alors que pour moi, enfin, j'ai l'impression que ce qu'il y a de beau dans la sexualité, c'est la rencontre avec l'autre.
Et justement, parlons de badinage, parlons de commerce amoureux. En revenant à Fragonard et à cette fête galante dans la fête à Saint-Cloud que vous avez choisi, Philippe Leguet, tout semble badin, léger, enlevé, et pourtant, on sent que d'une minute à l'autre, le ciel pourrait devenir orageux.
Oui, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un autre tableau de Fragonard où on voit une sorte de bouche d'ombre, qui avec un petit bateau, avec quelques personnages sur ce bateau, et on a l'impression qu'ils vont être absorbés par cette bouche d'ombre. On se demande même si c'est pas une sorte de préfiguration de 93, quoi, disons de l'explosion de la menace de cette violence contenue déjà dans ce cycle des Lumières.
Un petit mot sur les portraits de fantaisie, cette série pour la plupart datée de 1769 que Fragonard aurait réalisé en l'espace d'une heure. C'est ce que dit la légende.
Oui, mais je crois que cette légende est vraie. Et on s'en rend compte quand on voit la vivacité de la touche. C'est vrai qu'on n'a pas attendu, disons, je sais pas moi, les impressionnistes ou même Jackson Pollock pour avoir une touche rapide, une touche désinvolte, avoir cette énergie, quoi, cette énergie qui était du côté de la chaleur. Diderot, pour moi aussi, est un personnage vraiment clé. Et ce que j'aime chez Diderot, c'est la capacité qu'il a de se contredire et cette fougue, et cette, une sorte d'énergie vitale qui fait que les idées comptent moins que la rapidité avec laquelle elle s'impose à nous.
C'est amusant que vous citiez Diderot, Philippe Leguet, déjà puisque vous avez réalisé un film sur Diderot.
Vrai, ouais.
Et ensuite, parce qu'il y a quelques années, on vient de se rendre compte que c'était pas Diderot sur le portrait de Fragonard, alors que tout le monde pense que c'est Diderot. C'est devenu historique, on a même illustré des livres de poche de Diderot avec ce tableau. Et apparemment, ce n'est pas lui, puisqu'il avait les yeux bleus.
Oui, il y a un portrait. Marron. Il y a un portrait, effectivement. Yes. Il y a un portrait d'un écrivain. Et qui est magnifique, avec une sorte de houppelande jaune, enfin, ouais. Le fameux jaune de Fragonard. Et ce n'était pas Diderot. Ce qui est d'ailleurs décevant, parce que Diderot, au fond, n'a pas été très, très visionnaire avec Fragonard. Il préférait Chardin. Et au fond, il dédaignait un peu Diderot, en dépit de ce portrait qui n'était pas de lui.
Flaubert et Georges Sand sont attendus en studio, juste après un titre de la playlist France Inter, Banana Gun Out of Reach.
Oh,
Mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Philippe Leguet. Comme sérum littéraire, vous avez choisi une correspondance provoquant le ravissement, tant par son intelligence que par sa sensibilité, sa facétie et son intérêt historique. C'est celle de Gustave Flaubert et de Georges Sand. 13 ans de correspondance de 1863 à la mort de Sand en 76. Et quand la correspondance débute, Georges Sand a 59 ans, Flaubert 42. Il l'appelle « Cher maître » et votre édition, Philippe Leguet, porte un nom ravissant. « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera ».
Oui, d'ailleurs, Flaubert répond à cette objection. Je peux même tout de suite vous donner la réponse qu'il fait. Non, la littérature n'est pas ce que j'aime le plus au monde. Je me suis mal expliqué dans ma dernière lettre. Je vous parlais de distraction et de rien de plus. Je ne suis pas si cuistre que de préférer des phrases à des êtres. Plus je vais, plus ma sensibilité s'exaspère. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette correspondance entre Flaubert et Sand, bon, toute la correspondance de Flaubert en 5 tomes dans la Pléiade est évidemment un bonheur, mais la relation, la qualité de la relation qu'il y a entre ces deux écrivains, on a dit que Flaubert était misogyne, il a un respect, une admiration et une tendresse pour Georges Sand.
Qu'il a commencé par mépriser littérairement.
Un petit peu, mais il s'est bien rattrapé.
Oui.
Et il continue à la vouvoyer alors qu'elle le tutoie. Il signe ses lettres « ton vieux troubadour » ou « Cruchard », qui est le nom d'une sorte de grognard de Napoléon. Et voilà, on est bouleversé par cette tendresse, cette complicité, quelque chose qui les relie, qui est évidemment la création, la littérature, l'écriture. Et évidemment, Sand a un pied dans la vie, peut-être les deux pieds dans la vie, alors que Flaubert n'en a qu'un demi-pied. Enfin, en tout cas, il admire chez elle cette capacité à saisir le réel, à regarder la nature, alors que lui se sent toujours inadapté et prisonnier de sa bile noire.
Ben oui, parce que c'est un grand mélancolique, Flaubert. D'ailleurs, il se décrit, il dit « Je suis un si triste coco » à un moment dans la correspondance. Et il y a aussi cette phrase qui m'a marquée « Je maintiens que les hommes sont hystériques comme les femmes et que j'en suis un ».
Mais je crois aussi que Flaubert en rajoute un petit peu dans l'autoportrait de la déréliction. Je crois qu'en réalité, il ne souffre pas tant que ça. C'est-à-dire que lui qui se présente comme un écrivain qui met une semaine à écrire une phrase et qui après d'ailleurs rature cette phrase et la déchire, en réalité, justement, quand on voit sa correspondance, il y a un torrent furieux d'imprécations, un style qui ne cesse de bouger, d'embrasser tout le monde, l'actualité, société, ses humeurs, les voisins, sa cousine Caroline.
Le grand art, les hémorroïdes.
Oui, tout.
Les grands hommes.
Tout à la fois, tout est abordé, tout est digéré, tout est recraché. Et cette fougue, au fond, en elle-même déjà, est un remède à la mélancolie, parce que à chaque fois qu'on se sent justement de l'humeur de Flaubert, on s'aperçoit que c'est autre chose. Voilà, il n'est pas prisonnier de lui-même et il ne cesse de s'en échapper.
Mais l'écriture de fiction se faisait malgré tout souvent dans la douleur chez Flaubert.
Oui, parce qu'il y a l'exigence du style et l'exigence de la phrase et d'une phrase qui au fond totaliserait le monde entier. Enfin,
tout simplement.
Voilà, qui. Et quand il écrit ses correspondances, il est libéré de cette injonction au chef-d'œuvre. Et c'est là où on découvre, vous voyez, cette énergie, cette vitalité.
Et cette drôlerie. Philippe Le Guen, vous nous avez fait une petite sélection et vous avez un extrait pour nous de cette correspondance.
Oui, là encore, Flaubert répond à Sand. C'est une lettre qu'il lui écrit le jour de janvier, après lui fêter ses vœux malgré tout, et répond à cette critique qu'elle lui fait de sa rage de travail. Et il dit « Quant à ma rage de travail, je la comparerais à une dartre. Je me gratte en criant. C'est à la fois un plaisir et un supplice. Et je ne fais rien de ce que je veux, car on ne choisit pas ses sujets, il s'impose. Trouverai jamais le mien ? Me tombera-t-il du ciel une idée en rapport complet avec mon tempérament ? Pourrais-je faire un livre où je me donnerais tout entier ? Il me semble, dans mes moments de vanité, que je commence à entrevoir ce que doit être un roman. Mais je n'ai encore 3 ou 4 à écrire avant celui-là. Et au train où je vais, c'est tout au plus si j'écrirai ces 3 ou 4.
Un ravissement, correspondance de Sand et de Flaubert. Merci Philippe Le Guen pour ce choix. Le prochain remède est introduit par l'un de vos acteurs fétiches au sujet duquel vous dites « Il est un peu mon Klaus Kinski, l'acteur qui, au moyen de sa barbarie, parvient à mettre en échec mon excès de civilité. »
Ce que j'aime dans Cioran, c'est la phrase « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je déplore. » Ou alors, il rencontre un bonhomme dans un escalier. Il lui dit « Comment allez-vous ? » Alors l'autre dit « Oh, j'ai mal partout. » Alors Cioran lui dit « Faut prendre les choses avec philosophie. » Et l'autre lui répond obligatoirement. Et ça a rendu perplexe Cioran. Pendant un mois, il a appelé ça de l'utilité des adverbes. Un jour, il croise Beckett au Luxembourg. Et il a la délicatesse incarnée. Il est intime de Beckett. Et il va pas le voir. Parce qu'il dit, Beckett est un homme du monologue intérieur. Parler, c'est déjà cabotiner.
En avril 2017, Fabrice Lucchini était venu dans l'émission et nous avions partagé notre passion commune pour le philosophe roumain Cioran, dont vous avez choisi une citation consolatoire, Philippe Le Guen, extraite des syllogismes de l'amertume. C'est l'un des plus forts en titre. Parue en 52, elle figure dans le chapitre intitulé « Le cirque de la solitude ». L'on ne peut goûter à la saveur des jours que si l'on se dérobe à l'obligation d'avoir un destin. Toute ambition est forcément souffrance, Philippe Le Guen.
Je pense que dans cette phrase, Cioran, l'obligation d'avoir un destin, c'est cette chose. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde veut écrire des livres, faire des films, tout le monde se voit comme un artiste, et il y a l'obligation, au fond, d'accéder à une voie, à une voie intime. Bon, évidemment, je pense que c'est très bien que chacun trouve dans son chaos intérieur l'expression de sa vérité, et la psychanalyse sert en particulier à ça. Mais devenir un artiste, il y a quelque chose, disons, de parfois de mondain, d'extérieur. Il faudrait, voilà, se conformer à un destin. Et cette phrase, elle laisse rêveur. Je pensais à un film de Woody Allen où on voit, qui s'appelle Coup de feu sur Broadway, où il y a un metteur en scène dont on sent qu'il a aucun talent, qui met en scène une pièce de théâtre, et qui peu à peu comprend que c'est pas son truc. Et renonce, mais non pas dans l'accablement, mais dans la joie. Voilà, c'est ça, je pense que c'est très juste. Et l'obligation d'un destin, c'est aussi ne pas savoir goûter la saveur du jour, c'est tout le temps se dire, maintenant, il faut que je rentre travailler. C'est exactement la problématique de Flaubert, c'est-à-dire que tout le temps, Sand lui disait, ou ses amis lui disaient, viens, allons nous promener au bord de la rivière, allons, partons en vacances, profitons de la vie telle qu'elle est. Et Flaubert disait, non, je retourne dans mon couloir et je vous emmerde. Et moi, personnellement, à ma petite échelle, quand j'étais dans cette espèce de cinéphilie débordante et mal cadrée, au fond, je préférais voir 3 films par jour plutôt que d'aller me promener avec une jeune fille le long du bord de la Seine, voilà. Et ça le dit, je peux pas quand même, j'ai obligé de faire une petite allusion à cette voix et à ce personnage que nous venons d'entendre, à Fabrice Luchini, parce que Fabrice quand même est aussi pour moi un remède à la mélancolie. C'est-à-dire qu'il a été ça pendant 40 ans, parce que enfin, je réalise que ça fait septembre 1980, on s'est croisé sur un tournage où moi j'étais stagiaire, et depuis, c'est une sorte d'amitié. Je pourrais pas dire que c'est vraiment une amitié, je crois que c'est très difficile d'être aimé avec Fabrice, mais en tout cas, il y a un compagnonnage et une tendresse réciproque, oui, parce que je l'ai eu hier au téléphone, donc...
Eh bien, nous le saluons. Et il est temps maintenant de découvrir vos antidotes musicaux, Philippe Leguet. Alors, évidemment, vous en avez indiqué plusieurs, et puis pour l'un d'eux, vous avez commenté totalement inavouable. Alors, pardonnez-moi, mais évidemment, j'ai choisi celui-là pour commencer. C'est un morceau de 1966, La nuit n'en finit pas, de Petula Clark. Et juste avant de l'écouter, un tout petit mot, c'est quand même une chanson de la mélancolie. Je veux dire, elle pense à l'éventail des possibilités qu'offre la nuit, et elle souffre qu'il ne se passe rien.
Oui, mais je vous dirai ça après la chanson.
D'accord, on écoute Petula Clark, La nuit n'en finit pas.
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché. Qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. J'allume une cigarette, j'ai des idées noires en tête.
Cafard enjoué de Petula Clark, Philippe Leguet.
Oui, là aussi, c'est la réponse. La réponse par cette musique, cette énergie, au moment où on se sent complètement à la ramasse, au moment où, au fond, où ça y est, on a tout donné, on se sent vide, on se sent inutile, l'homme qu'on aimait est parti, la femme qu'on aimait ne vous répond plus, et quelque chose repart. Voilà, c'est ça qui est, c'est cette cette idée, au fond, qui m'est très chère, peut-être parce que j'ai une sorte d'éducation catholique, comme ça, qui persiste en moi, même si elle n'a plus vraiment de sens, en tout cas en termes de foi, c'est un peu l'idée de mort et résurrection. Je crois beaucoup qu'on peut se mourir à soi-même et trouver brusquement dans l'existence un ressort, une image qui vous... rayon de soleil, une chanson, un sourire, enfin voilà, quelque chose qui est de l'ordre du vivant et qui vient vous ranimer dans votre sentiment d'échec, d'être à côté de la plaque. Et c'est ça qui... brusquement, quelque chose se redémarre, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est très proche, ça.
Ces petites parenthèses de grâce que vous décrivez, Philippe Leguet, vous les avez souvent ?
En fait, j'aimerais... Je crois que je... En tout cas, en tant que metteur en scène, j'aimerais communiquer ça. J'aimerais que les films soient, en tout cas certains films que j'ai faits, avec un climat de légèreté ou avec un désir de légèreté. Parce que, après, est-ce qu'on y arrive? Mais le désir de légèreté est une forme de réponse et je pense aussi de politesse. Ça doit être un des vestiges de ma bonne éducation. La politesse qui est de ne pas s'installer dans sa morbidité, dans sa morosité. Et je crois, oui, enfin, que j'aimerais à ma façon donner une espèce d'élan, oui.
Et vous illustrez, comme vous le dites si justement, dans le registre des comédies inquiètes, Philippe Leguet.
Oui, parce que alors, la comédie qui n'aurait comme ambition que de vouloir faire rire, me paraît absolument terrible, quoi, sinistre. Et en revanche, un film qui s'enferme dans le malheur ou dans la plainte ou dans le désespoir, quelque chose pour moi d'une imposture en réalité, parce qu'il ne voit pas cette autre dimension de la vie qui est son côté chatoyant et imprévisible.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens
pas. Le petit bal perdu, chanté par Bourvil en 1961. Philippe Leguet, c'est un choix tendre et mélancolique.
Alors on est bouleversé quand on réentend cette chanson. C'est toute l'humanité de Bourvil. C'est-à-dire, évidemment, c'était un acteur avec une puissance comique formidable. Mais il y avait la tendresse, mais il y avait cette espèce de mélancolie en lui. Et la chanson est triste et joyeuse. Ouais, c'est vraiment difficile de l'apercevoir autrement.
Vous pensez que la vie, Philippe Leguet, devrait être orchestrée par Georges Delerue, le compositeur qui a notamment travaillé sur Le Mépris et tant d'autres films.
Et avec François Truffaut.
Ouais.
C'est vrai que les musiques de La Peau Douce, de toute l'œuvre de Truffaut, et aussi de l'œuvre de Broca, aussi par exemple dans Cartouche, il y a un thème magnifique. Il a aussi travaillé aux États-Unis. Enfin, Delerue aussi était un personnage très vif, très. Il était tout petit, mais au piano. Et piano, il était d'une virtuosité, et il avait en fait un amour de la vie. En dépit du fait qu'il est mort quasiment au même âge que François Truffaut et quelques années à peine après lui. Et il avait un amour de la vie, et cependant il s'étonnait de ce que ses films ressortaient toujours avec une forme de tristesse.
L'étude pour orchestre à cordes intitulée « Course à pied » de Franz Berwald, pour introduire l'activité qui vous grise, Philippe Leguet. Vous, pour qui la course est un moyen de découvrir une ville quand vous êtes à l'étranger ou à la campagne, ou un moyen de démêler vos idées?
C'est vrai que quand on a les idées un peu confuses, quand elles s'enchevêtrent comme ça au petit matin, on ne sait pas trop dans quelle direction on a envie d'aller. Le fait de mettre ses chaussures et de partir dans la ville, que ce soit à l'étranger ou à Paris, comme je le fais assez régulièrement, en tout cas le plus régulièrement possible, on a l'impression que vous savez, c'est un peu comme quand il y a des pelotes de laine qui sont toutes emmêlées les unes les autres, et puis on tire un fil au fur et à mesure que se déroule le mouvement des pas, le mouvement de la course, c'est comme un fil qu'on déroulait, et de soi, la pelote se réorganise et se refabrique. Et dans les chevaux des idées, on une évidence très mystérieuse qui peut-être cet accord entre le corps et l'esprit arrive à s'imposer à vous.
Vous courez tous les jours, Philippe Leguet, il n'y a jamais de paresse?
Non, je cours tous les jours en vacances, notamment quand je peux courir sur une surface qui est un peu terreuse et qui n'est pas du bitume. Et puis à Paris, j'essaie de courir, disons, deux ou trois fois.
Combien de temps?
Oh, vous voulez tout savoir?
Je veux tout savoir.
Alors, je dirais 50 minutes ou quoi, voilà, après 50 minutes.
Je suis épuisé.
Après 50 minutes, je suis à ramasser.
En musique?
Mais en revanche, non, sans musique, alors ça, je ne supporterais pas. Mais c'est une activité qui est un peu comme un... qui est l'activité, au fond, que je pratiquais déjà quand j'étais en pension, parce que j'étais pas du tout quelqu'un de la vitesse, j'étais quelqu'un du long terme. Et je me souviens tout le temps, j'avais été à San Francisco, j'ai couru, j'ai été dans des tas d'endroits, même en Inde, j'ai couru, j'ai mis mes chaussures, je me suis retrouvé devant quatre chiens très affamé, je me suis dit, ils vont m'attaquer, ils vont me dévorer, ma mère va apprendre que j'ai été attaqué par des chiens en Inde, et voilà, mais c'est vrai que c'est un fil conducteur dans ma vie.
Ouais. Alors les chiens ne vous ont pas attaqué?
Non, mais vous voyez, je suis là.
Et vous avez gardé un contact avec eux?
Non, pas avec les chiens.
D'accord. Bon, voilà, on termine sur la question la plus intelligente de cette émission. Merci beaucoup, Philippe Leguet, d'être venu partager vos remèdes.
Merci à vous.
En attendant votre prochain film, dont vous débutez bientôt le tournage, on peut revoir la plupart des autres en vidéo, à la demande, sur Internet ou en DVD dans les vidéoclubs résistants. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et j'espère que vous êtes aussi sûrs de votre fait qu'un crayon à entourloupe. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.